9 décembre au Pantoum, à Québec. Elle y présentera son plus récent EP, Sum, en full band. Détails et billets au safianolin.com.
Faites-le plein de découvertes musicales en écoutant Chiffre 94.3. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3 en compagnie de votre animatrice Lucie. Ce soir à l'émission, j'ai le privilège de recevoir Marc-André Comeau pour venir nous parler d'histoire gaspésienne. On va s'intéresser plus précisément à l'histoire de la baie des Chaleurs à travers le prisme de la fondation d'une famille normande métissée, celle des Malais d'Acadie. Bonsoir Marc-André.
Bonsoir Lucie. Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien, merci.
Monsieur Comeau a récemment publié aux éditions Septentrion son livre intitulé « Pêcheurs normands, famille métisse, genèse de l'installation d'une famille de pêcheurs, les Malais d'Acadie à la baie des Chaleurs », livre qui se penche sur les années allant de 1680 à 1763. Le premier Malais à mettre les pieds dans la colonie française d'Amérique du Nord est Jean Malais, un Français qui est originaire de Bouillon en Basse-Normandie, qui, comme beaucoup d'hommes de la région, gagne sa vie en tant que marin. Parti par plusieurs campagnes de pêche sur les côtes terre-neuviennes, à quoi ressemble la vie de pêcheur pour les hommes comme Jean vers le début du 18e siècle?
C'est une vie difficile. Le père de Jean Malais, le premier Malais à s'être aventuré dans les eaux de la Nouvelle-France, a commencé sa carrière de marin vers 1705, donc né vers 1676, ça lui donnait à peu près 20, au début de la trentaine, ou fin de la vingtaine en fait, c'était 1779. Son père à lui n'était pas marin, mais étant donné à ce moment-là en Normandie, lorsque le père décédait, tout allait au plus vieux de la famille, donc c'était à son frère, et ce qu'on appelle les cadets de Normandie, qui est une expression même encore aujourd'hui, utilisée aujourd'hui, ça donnait quelqu'un avec peu de moyens. Donc les cadets, dans ce cas-ci Jean Malais, les choix pour lui qui n'avaient pas hérité de grand-chose de son père n'étaient pas nombreux. Il avait joint l'armée et la pêche, étant donné qu'il était sur le littoral. Donc, c'était un choix qui était relativement simple pour lui. C'était une carrière très difficile, une occupation très difficile et dangereuse. Dépendant si on faisait de la pêche dite errante et la pêche sédentaire, on partait au mois de février pour faire la pêche errante sur les bancs de Terre-Neuve. On la disait errante parce que simplement les morutiers, une fois sur les bancs de Terre-Neuve, se laissaient errer, se laissaient au fil des bancs des eaux et des vents pour passer au-dessus du banc et pêchaient. Et ils prenaient la morue et la prêtaient, ils ne la séchaient pas, ils simplement salaient, étaient éviscérés, salés, mis dans la cale du bateau. Et durant toute la durée de l'été, de la campagne de pêche, ces bateaux-là ne touchaient pas à terre, à moins d'une avarie sérieuse. Et puis retournant en droiture par la suite en France. Ils passaient l'été sur l'eau. Ça, c'était la pêche errante. Il y avait aussi la pêche sédentaire. Elle était différente. On devait se rendre à la terre pour produire une morue séchée. Donc, pour sécher cette morue-là, c'était toute une assez... ça prenait une infrastructure assez importante sur les plages. Donc, on apportait aussi en même temps des petites chaloupes sur les plus gros navires, des petites chaloupes qui utilisaient habituellement 3 pêcheurs par chaloupe. Donc, on arrivait une traversée qui pouvait durer à peu près un mois. Assez dur comme traversée. On mange de la soupe au pois, on mange du biscuit de mer qu'on appelle un biscuit séché et du lard durant les jours gras, comme on dit, là, qui sont peu nombreux, surtout des jours maigres. Et lorsqu'on arrive finalement au bout de cette traversée d'un mois-là, on débarque toutes les chaloupes, on les prépare, ils sont démantés, il faut les mater, ils sont délestés, il faut mettre du lest. Il faut mettre la voilure, tout ça. Donc, les pêcheurs, eux, s'occupent de ça. Les trois marins qui vont embarquer à bord de ces trois petits chaloupes-là, il y a le maître de chaloupe, qui c'est lui qui est en charge. C'est lui qui va déterminer à l'endroit où ils vont aller pêcher. Il y a un deuxième en importance, c'est le bossoin à l'avant. C'est lui qui va jeter l'ancre. C'est lui qui va s'occuper de naviguer jusqu'au retour, jusqu'à l'échafaud. Il faudra débarquer la morue. Et dans le milieu de tout ça, il y a le jeune qui est le moins payé de tous les trois. Ça va être Paul Beausoin, pardon, j'oublie le terme. C'est ça, le Beausoin. Lui va s'occuper de ranger la morue à mesure qu'elle est pêchée pour être sûr qu'elle est bien équilibrée, pour pas que le bateau penche, et ainsi de suite. Donc tout ça, ils vont partir à 3 heures du matin pour remplir leur chaloupe, retourner à l'échafaud, débarquer la cargaison de morue. On a des jeunes piqueurs qui sont souvent des mousses de 12, 13, 14 ans qui vont piquer la morue, le mettre sur l'établi, sur l'échafaud, sur la table de détenteur, qui va la couper, l'éviscérer. Il va la passer aussi à l'habilleur, qui va l'habiller. C'est-à-dire que l'habilleur, en 3 coups de couteau, il va enlever la tête, l'arête. Il va l'ouvrir complètement pour la donner au saleur. Tout le processus de salaison va commencer. On laisse la morue initialement prendre son sel, et par la suite, en étant la morue, si on est chanceux pour avoir une grave, c'est une plage de cailloux. Donc, on peut déposer directement la morue sur des cailloux et la faire sécher au soleil. Un processus qui peut prendre jusqu'à près de 1 mois, 8 semaines environ, où on tourne et retourne. Le soir, c'est du côté de la peau pour pas que l'humidité ou la rosée affecte la morue. On la retourne, donc on prend plusieurs soleils, entre guillemets. Et au bout de ça, on a une morue séchée. Puis tout ça, on ne sait pas exactement l'occupation dans tout ce travail industriel-là qu'avait Jean Mallet, mais c'était vraiment un travail très, très ardu, très dur, qui commençait très tôt et finissait très tard dans la journée.
Oui, des journées vraiment difficiles, effectivement. Oui. Le fils aîné de Jean-François Mallet suit les traces de son père et devient lui aussi marin, donc il connaît un quotidien qui est similaire. En 1723, François Mallet fait son premier voyage vers la baie des Chaleurs. C'est pas un hasard, parce qu'à la même période, l'intérêt des pêcheurs pour la côte de Gaspé, qui inclut à cette époque-là la baie des Chaleurs, s'accroît considérablement. Comment ça s'explique cette augmentation du nombre de navires dans les eaux gaspésiennes?
On est juste à la fin de la guerre de succession d'Espagne en 1713 avec le traité d'Utrecht. Il va se passer que les Français ont perdu leur poste de pêche à Terre-Neuve, parce qu'on sait qu'au bout de cette guerre-là, la France perd l'Acadie, mais perd aussi Terre-Neuve, qui est là où se passe le gros de leur pêche mauricienne. La pêche à la morue, c'est pas seulement pour la morue, en fait, important pour la France, seulement pour la morue, mais aussi pour les matelots que la pêche morutière produit. Toute cette flotte morutière-là a besoin d'hommes et ils sont formés. Donc, si elle ne poursuit pas sa pêche morutière en Nouvelle-France, elle va perdre son école de matelots. Donc, c'est très important pour elle qu'elle trouve un autre lieu. Donc, ça va prendre du temps à ce moment-là. Pour se trouver ça, de se trouver un autre poste de pêche. Mais finalement, vers 1714, 1715, les premières bases pour Louisbourg vont être fondées. Donc, c'est là où on va mettre toute l'emphase les premières années pour la flotte de pêche. Puis, au départ aussi, les postes de pêche à Louisbourg vont se combler rapidement. Donc, il y a juste un certain nombre défini de pêche de l'eau côtière où on peut produire de la morue séchée, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, lorsque vers 1719, 1720, 1721, tous ces endroits-là sont comblés, même par des pêcheurs français, on va commencer à regarder ailleurs. Et la baie des Chaleurs devient tout d'un coup un lieu très intéressant, non seulement pour les pêcheurs des environs de Louisbourg, mais les pêcheurs français, en particulier les Bretons, qui ont connu des saisons désastreuses sur leur lieu de prédilection pour la pêche, qui est principalement à la Grande Baie, au Labrador et au Petit Nord. Puis ils jetaient la faute ou le blâme de leur mauvaise pêche sur la trop grande quantité de navires qu'il y avait là-bas. Donc, eux aussi vont vouloir trouver un autre lieu de pêche. Et c'est encore à la baie des Chaleurs qu'ils vont trouver l'endroit idéal pour poursuivre leur pêche. Donc, on a cet apport de nouveaux pêcheurs-là qui s'en viennent à la baie des Chaleurs dans les années 1722-1723. Donc, c'est un peu ça qui mousse la popularité de la baie des Chaleurs.
Très bien. François effectue plusieurs voyages vers la côte de Gaspé en 1723 et 1729, donc dans les années dont vous parliez un peu. En 1729, lui et deux autres pêcheurs normands restent dans la baie des Chaleurs où ils sont fort probablement engagés par des entrepreneurs locaux. Les trois hommes s'installent donc de façon permanente dans la baie des Chaleurs. Les sources montrent que François Mallet s'installe éventuellement à Grande-Rivière où il s'adonne toujours à la pêche. À quoi ressemble sa vie en Gaspésie?
Oui, c'est ça. Donc, il va probablement s'associer ou être à l'emploi d'habitants pêcheurs sur la côte. Donc là, c'est un peu différent que les pêcheurs saisonniers français. Donc, c'est moins gros, c'est moins industrialisé. On parle vraiment d'une petite entreprise. Où un habitant pêcheur doit porter tous les chapeaux. Donc, il doit non seulement préparer et construire toutes ses infrastructures de pêche. C'est lui aussi qui va marchander pour son sel, il va marchander pour ses agrès de pêche avec les pêcheurs saisonniers français et les autres navires qui viennent à la baie troquer, parce qu'à ce moment-là, on troque beaucoup parce que l'argent est plutôt rare. Donc, on va troquer des quintaux de morue pour des tonneaux de sel, pour des agrès de pêche et pour de la nourriture, bien entendu, des vêtements et ainsi de suite. Donc, pour l'habitant pêcheur, qui est probablement le cas pour François Mallet, où il va travailler, pour un habitant pêcheur, ils ont quelques employés, ces habitants pêcheurs-là, dont probablement François Mallet. Et là, c'est ça. Donc, il va. C'est un peu la même chose. Donc, tous les printemps, il faudra qu'ils réparent leur installation à la côte. Ils vont mettre leur bateau à l'eau, ils vont pêcher et puis ils vont produire toute leur morue séchée. Tout ça, un habitant pêcheur va tout faire, le travail qu'habituellement est très, pour ce qui est d'un pêcheur saisonnier avec tout son équipage et peut-être 80 marins ou 60 marins qui vont chacun leur spécialité. Les pêcheurs ne vont jamais trancher la morue ou habiller la morue, ne vont jamais travailler sur l'échafaudage et ils ne vont jamais faire le salage et le séchage. Habituellement, c'est des groupes différents d'employés. Dans le cas d'un habitant pêcheur, il faut qu'il se spécialise dans tout ça, en plus d'être aussi celui qui marchande et qui trouve un débouché pour sa morue. Donc, c'est un peu plus différent qu'être un employé ou être un marin à bord d'un gros navire marin qui arrive de la France pour pêcher de façon saisonnière.
Donc, il faut être débrouillard. C'est dans ce contexte-là que François Mallet décide de fonder une famille en Gaspésie. Donc, maintenant, il est installé à Grande-Rivière et vers 1742, il épouse Madeleine Larocque, fille de François Larocque et de Marguerite Caplan. Pouvez-vous nous parler un peu de la belle famille de François Mallet?
Oui, les Larocque, en fait, ils sont issus du clan franco-métis, des Caplan. Je dis franco-métis tout simplement parce que c'est la plupart du temps, c'est des Français qui se sont retrouvés à demeurer, à passer un hiver ou à hiverner à la baie des Chaleurs. Parce que, comme je vous ai mentionné, toute l'infrastructure de pêche qu'un pêcheur saisonnier doit installer en France, souvent ce qui arrivait lorsqu'il partait à l'automne pour retourner en France, lorsqu'il revenait à l'hiver, ces infrastructures, l'échafaudage, qui est un genre de quai qui s'en va vers l'eau, les vigneaux sur lesquels on faisait sécher la morue lorsqu'il n'y avait pas de grave, tout ça, souvent, il y avait soit des autochtones ou des pêcheurs ou des gens locaux qui les défaisaient pour en retirer les clous, pour les utiliser à eux-mêmes. Et c'est donc qu'ils arrivaient, puis ils étaient tous détruits. Donc, ces capitaines-là ont commencé à demander à certains hommes de leur équipage s'ils voulaient hiverner dans la région. Donc, c'est comme ça que certains gens se sont retrouvés à passer l'hiver là, et une et deux hivers, et en bout de ligne, les hommes voulant avoir un peu de compagnie, mais ils l'ont trouvé auprès de femmes autochtones ou de femmes déjà métissées. Et c'est comme ça que peu à peu, la baie des Chaleurs s'est peuplée, contrairement peut-être à d'autres modes de colonisation qu'on aurait pu retrouver en Nouvelle-France et au Canada et en Acadie, les deux autres colonies de la Nouvelle-France. Dans le cas de Caplan, lui, c'est un peu ça. Donc, c'est un genre de. On ne peut même pas parler vraiment de colonisation, c'est plus une installation organique, un développement organique du peuplement de la baie. Lui est arrivé, c'est un Gascon, Guillaume Caplan, qui est à l'origine du clan Caplan, né à Saint-Nicolas-de-la-Grave, dans le département de Tarn-et-Garonne, en 1672. Il arrive au Canada en 1788, fort probablement pour aller pêcher dans le coin de Percé. Donc, c'est un tout jeune homme à ce moment-là. Donc, lui-même, éventuellement, il va s'y faire et il va probablement passer des hivers à Québec. Et puis, c'est là qu'il va probablement rencontrer des gens ou des marchands pour lesquels il va éventuellement, qui va l'aider à établir une pêcherie, une sécherie dans la baie des Chaleurs, initialement à Percé, mais par la suite dans la baie des Chaleurs. Fait que ce bonhomme-là, Guillaume Caplan, va épouser une autochtone dont c'est malheureusement pas le nom. Il va y avoir au moins 4 filles qui sont à l'origine qui sont, pour tous ceux qui ont fait leur généalogie, qui viennent faire des ancêtres dans la baie des Chaleurs, ils vont probablement retrouver ces 4 femmes-là dans leur arbre généalogique. Il va probablement aussi avoir 2 fils. Ils vont probablement épouser des Autochtones. Ils sont probablement aussi les ancêtres des Métis Micmac de la baie des Chaleurs, ou les familles, on les retrouve les familles Caplan, parmi les familles Micmac, pardon, de la baie des Chaleurs. Donc, mais les 4 femmes vont épouser des pêcheurs français. Une va épouser une Chapados, une autre Pierre Huard, l'ancêtre des Huard. Il va y avoir aussi les Iard, aussi les Lalande, et les filles métisses de tous ces foyers-là, de ces foyers mixtes-là, vont épouser à leur tour d'autres pêcheurs français. Et là, on peut commencer, initialement, on peut parler de noyaux et de clans. Puis là, de plus en plus, à mesure qu'il y a plus de générations, on va commencer, il y a une émergence d'une communauté métisse vraiment qui va se produire à la baie des Chaleurs. Et les Laroques vont être une de ces familles-là.
Très intéressant, merci. Les années 1740 sont plutôt mouvementées pour les habitants de la Gaspésie en raison de la guerre de succession d'Autriche qui atteint les colonies à partir de 1744. Quel impact a la guerre sur François Mallet et sur sa famille qui est nouvellement élargie?
C'est ça. Donc, malgré que la guerre de succession d'Autriche a commencé en 1740, c'est à peu près seulement vers 1744. Où elle va avoir un impact en Nouvelle-France, en particulier à la baie des Chaleurs. Donc là, initialement, la Royal Navy britannique va s'attaquer particulièrement au commerce maritime français, elle va vraiment faire un gros impact. Donc, même elle va commencer à capturer tout navire commercial français, dont les Mauritiques qui viennent pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Je pense que c'est seulement en 1744, il y a près de 20% de la flotte mauritière de Granville, qui est un des grands ports mauritiers avec Saint-Malo, qui va être prise par les Britanniques. Donc ça va faire en sorte que l'année suivante, en 1745, il y a Saint-Malo et Granville. Saint-Malo va n'envoyer aucun navire à la baie des Chaleurs, Granville peut-être 2. Donc ça va commencer un problème de ravitaillement pour les postes de la baie des Chaleurs, et même pour Québec. Puis finalement, l'année suivante, il n'y a aucun bateau de Parti de France qui est venu ravitailler les postes de la nouvelle de la baie des Chaleurs, ce qui va causer vraiment une grosse disette. Pas immédiatement, les pêcheurs locaux vont pouvoir se tirer d'affaires, mais là, il va y avoir des raids. Donc, par exemple, en 1700... je vais continuer sur la disette là, avant que je pense à d'autres choses. Elle a été particulièrement marquée entre 1746 et 1747 durant l'hiver. Puis c'était le gros manque de sel, et on peut penser que le sel... Mais le sel, c'est vraiment le nerf de la guerre à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de congélation, il n'y a pas de réfrigération pour les aliments et tout ça. Et tout pour conserver pour l'hiver nos aliments, leurs poissons, ça prend du sel. Surtout les viandes et ainsi de suite. Donc, pas de sel, pas de conservation d'aliments, pas de nourriture et ainsi de suite. Donc, on essaie à tout point de vue d'aller trouver un petit baril de sel. Ici, on est prêt à aller jusqu'à Terre-Neuve pour essayer de s'en trouver sur les côtes françaises et ainsi de suite. Puis, on a bien de la misère. Donc, il va y avoir des pertes de vie à ce moment-là parmi les premières familles de la région. Puis, à cela va s'ajouter aussi des attaques anglaises. Entre autres, à l'été 1747, il va y avoir quelques navires de la Royal Navy qui étaient envoyés par le vice-amiral Charles Knowles de Nouvelle-Écosse, et ils vont envoyer ça pour mission de détruire tous les postes de la baie des Chaleurs, et même du golfe Saint-Laurent en général. En particulier, ils vont détruire les postes de pêche de la baie de Gaspé. Puis après ça, ils vont vouloir s'en prendre à Grande-Rivière, où est François-Mallet, entre autres. Mais là, ils vont frapper une résistance, une poche de résistance, puis c'est qui va être menée par un des navigateurs pêcheurs du coin, ou un marchand du coin, qui s'appelle Jean Barré, qui va réunir 30 à 40 pêcheurs du coin, donc probablement François-Mallet. Puis, c'est une bataille qui va durer jusqu'au coucher du soleil. En fait, c'est une frégate qui va, au dire de Jean Barré, tirer plus de 300 coups de canon. Ils vont riposter avec des coups de mousquet. Ils vont empêcher finalement le débarquement de ces gens-là et ils vont sauver leur installation. Donc, après ce moment-là, Jean Barré va prendre une certaine importance aussi dans l'endroit. Mais c'est comme ça que, même qu'au bout de... au bout de cette bataille-là, les documents anglais font état d'une vingtaine de blessés parmi les équipages anglais. Donc, tout durant cette période-là, donc beaucoup de souffrances au niveau de la disette, les raids, mais finalement, tout ça va se calmer à la fin de la guerre en 1748. Okay, là, à ce moment-là, les bateaux français vont revenir, le ravitaillement des postes va se refaire, puis là, on va recommencer à nouveau à vivre un peu plus. À la baie des Chaleurs.
Donc, vraiment une période difficile. Les années qui suivent la guerre de succession d'Autriche correspondent aussi à une grande période de changement pour les Mallets, entre autres parce que François Mallet décède en 1752. Il meurt noyé à l'entrée du havre de Grande-Rivière, ce qui est assez commun à l'époque. C'est un endroit assez dangereux. Sa femme Madeleine, qui doit maintenant s'occuper de son fils de 10 ans, doit se remarier. Ensuite, d'un autre côté, la famille du frère cadet de François Mallet, qui s'appelle lui aussi François, une grande originalité dans la famille, émigre à l'Île-Royale en 1749. C'est un deuxième François et sa famille vont donc rapidement se retrouver plongés dans le contexte de début de guerre de conquête. Parlez-nous un peu de tout ce contexte de changement.
Oui. Donc, après la fin de la guerre, la succession d'Autriche, c'est un peu le retour à zéro. Les Français ont pris certains postes, dont Madras en Inde et ainsi de suite. Les Anglais ont pris Louisbourg. Bon, on parle des pourparlers de pêche. On s'échange tout ça de nouveau. Louisbourg retourne aux Français et ainsi de suite. On est tout ça pour pas grand-chose finalement. C'est retour au point zéro. On sait déjà que les parties étaient épuisées, un peu arrêtées. Donc, c'est probablement une pause avant une guerre qui s'en vient. On sait déjà ça. Donc, lorsque Louisbourg retourne aux Français, effectivement, ça a pris quelques années. Ça a pris au moins une année avant que les Français retournent, que les Britanniques partent et que les nouveaux colons français de Louisbourg arrivent à nouveau à Louisbourg, parce qu'on était, la guerre s'étant arrêtée tard à l'automne, il n'y a pas eu tant de préparatifs des Français pour reprendre Louisbourg dans les faits. Donc, ça va juste se produire au printemps suivant. À ce moment-là, il y a François Mallet, je l'appelle François le Jeune, François II, parce qu'il est le jeune frère de François I Mallet. Il faut dire qu'à ce moment-là, ce n'est pas les parents qui nomment les enfants, c'est les parrains et les marraines. Donc, si c'est un garçon, habituellement, c'est le parrain qui va donner son nom à l'enfant, et si c'est une fille, c'est la marraine qui va donner ce nom-là. Donc, vous allez me dire, ben, il suffit de prendre des parrains qui ont des noms différents que des enfants qu'on a déjà, mais ce n'est peut-être pas évident. D'ailleurs, Jean Mallet, sa femme s'appelle Jeanne, et son premier enfant, comme on vient de le dire, c'est François. Son deuxième enfant, c'est François. Et le troisième enfant, qui est une fille, est Françoise. Donc, l'originalité pour les prénoms n'est pas vraiment là pour les Mallet à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, le deuxième François, le plus jeune, va, et lui et sa famille, Anne-Marie, son épouse et ses deux fils, ses deux jeunes fils, vont être sur les bateaux qui vont arriver à Louisbourg pour reprendre l'endroit des mains des Anglais. Il va rester un bout de temps à Louisbourg parce que sa femme arrive enceinte de 7 mois déjà. Elle va donner naissance à Louisbourg d'un deuxième Mallet né en Acadie, en l'occurrence Louis Mallet, qui, je dis un deuxième Mallet parce que François Mallet, le plus vieux de François I en Gaspésie, va avoir eu aussi un enfant qui va s'appeler Jean Mallet de ce côté-là. Donc, ces deux cousins-là sont les deux seuls des Mallets né en Nouvelle-France. Là, un an plus tard, il se dirige vers le Havre de la Baleine. Il va louer une sécherie, puis il va démarrer une entreprise. Malheureusement, à ce moment-là, il ne réussit pas à se procurer le terrain. L'année suivante, il va passer au Petit Laurent-Bec, qui est tout près de Louisbourg, soit dit en passant, peut-être moins de 10 km de Louisbourg. Là, il va réussir à s'acheter un locotier, puis là, il va démarrer une belle entreprise. Au départ, il va même embaucher des pêcheurs, trois pêcheurs avec une chaloupe. Et les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Il va même atteindre un point où il y aura un total de 9 employés qu'il va pouvoir employer sur trois chaloupes, trois pêcheurs par chaloupe. Donc, il y a un échafaud là-bas au Petit Laurent-Bec qui aujourd'hui s'appelle en passant Little Lorraine. C'est un petit village qui existe toujours au Cap-Breton. Donc, ça va très bien pour lui. Mais malheureusement, il va y avoir les premiers. Dès 1753, il va y avoir des premiers actes d'hostilité entre la France et l'Angleterre, toujours en temps de paix, la guerre n'est pas déclarée. Mais les Français ont décidé d'attaquer le Fort George en Ohio. Ça va déclencher une série d'événements. L'année d'ensuite, les Anglais ne sont pas contents, comme de raison. S'en prend maintenant il va y avoir une bataille qui va s'appeler la Jumonville Glen en 1754 en Pennsylvanie. Puis là, ça va mener aussi à la prise des Anglais du Fort Nécessité en 1754. On est encore en période de paix officiellement, mais ça gronde beaucoup. Par la suite, qu'est-ce qui va arriver en 1755? Plus près de la Nouvelle-France, il va y avoir la prise du fort Beauséjour, qui est un fort qui est juste à la limite entre l'Acadie française et l'Acadie anglaise. Il faut se rappeler que depuis 1713, l'Acadie, qui est vraiment anglaise, qui est la partie péninsulaire de la Nouvelle-Écosse actuelle, a été remise aux Anglais. Eux s'attendaient à recevoir toute l'Acadie dans leur idée jusqu'en Gaspésie, qui à ce moment-là, la Gaspésie faisait partie donc, selon eux, de l'Acadie, le nord de la Gaspésie. Avec les négociations, il a dit non, les Français ont dit que vous n'avez que la péninsule, la partie péninsulaire ou continentale de la Nouvelle-Écosse. Vous n'avez pas l'île du Cap-Breton, vous n'avez pas l'île du Prince-Édouard, qui s'appelait l'île Saint-Jean à ce moment-là, et vous n'avez pas l'équivalent du Nouveau-Brunswick, qui est l'Acadie française. Donc, le fort Beauséjour dont je parlais est à la limite entre l'Acadie française au sud du Nouveau-Brunswick et à la frontière avec la Nouvelle-Écosse, qui était à ce moment-là l'Acadie anglaise. Donc, en 1755, les Anglais s'en emparent. Ça, c'est au mois de juin. Un mois plus tard, mais là, ça va commencer le drame de la déportation des Acadiens. Le premier, c'est à Grand-Pré, au mois de juillet 1755. Des déportations qui vont se poursuivre jusqu'en 1762.
Donc, nous en sommes déjà à notre première pause musicale. Pour rester dans le thème de la pêche et des marins, nous allons écouter un extrait de la chanson « Sur les bancs de Terre-Neuve » tiré de l'album « Les chants de marins français, la tradition du 18e et 19e ». Bonne écoute.
Nous voilà bien du monde ici, nous voilà bien du monde là.
Nous voilà bien du monde ici, nous voilà bien du monde là.
Celui que j'aime n'y est pas léger.
Vous écoutez CHIS 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de CHIS 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Tire le balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Nous sommes de retour sur les ondes de Chiz 94.3 pour poursuivre notre émission avec notre invité Marc-André Comeau, qui nous parle d'histoire gaspésienne. Nous avons survolé un peu plus tôt à l'émission la vie des pêcheurs normands de la baie des Chaleurs en suivant le destin de la famille Mallet. Pour cette deuxième partie, nous allons un peu délaisser les Mallets pour aborder le vécu de la conquête en Gaspésie, avant de revenir sur le destin de la communauté métisse de la région. La guerre de Sept Ans commence en Europe en 1756. Dès l'été, les pêcheurs gaspésiens vivent les conséquences de ce contexte de guerre. Comment les habitants sont-ils concrètement affectés?
Ça va être très similaire au début avec ce qui s'est passé avec la dernière guerre, celle de la succession d'Autriche de 1744 à 1748. Donc, au printemps de 1756, la fébrilité qui existait au printemps habituellement à Baie des Chaleurs, juste avant l'arrivée des pêcheurs saisonniers français, ça va laisser place à un silence assez menaçant parce que Saint-Malo et Granville ne vont pas envoyer aucun. Il y a peut-être Granville qui va envoyer deux capitaines téméraires qui ont décidé de se rendre quand même en pleine guerre à la baie des Chaleurs. Il faut dire que jusqu'à la déportation des Acadiens, il n'y avait toujours pas de guerre. La guerre va être vraiment déclarée seulement au mois de, si je me rappelle bien, c'était en 1756. Ça a commencé après tous ces efforts-là qui étaient en temps de paix, où les batailles qui sont passées entre Français et Anglais. Le dernier, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ont envoyé leur marine dans le golfe Saint-Laurent. Ils vont saisir jusqu'à près de 300, ben, du même à la grandeur du globe, pas juste dans le golfe Saint-Laurent, mais au total, à travers le globe, ils vont saisir 300 navires français. Sur ces 300 navires français, on parle de 6000 marins. Ça, c'est près de 12% du réservoir de matelots en France qu'il y avait à ce moment-là, qui était près de 50 000 personnes. Donc, ça va impacter beaucoup les ressources que la France prévoyait avoir pour une guerre qui s'annonçait d'ores et déjà. Donc, elle va demander réparation à l'Angleterre, puis c'est là que l'Angleterre va déclarer la guerre officiellement le 18 mai 1756. La France va suivre avec sa propre déclaration le 9 juin qui va suivre. Donc, ça prend pas de temps après, quelques mois après, un peu comme ce qui s'est passé à la guerre précédente, puis c'est le même monsieur, le vice-amiral Charles Knowles, qui va envoyer, il va donner des ordres pour qu'il y ait des bateaux qui s'en vont détruire les postes de pêche sur les côtes du littoral non seulement de la baie des Chaleurs, mais en général du golfe Saint-Laurent. Il va s'installer. Premièrement, c'est des villages autour de la baie de Gaspé qui vont être affectés. Le gouverneur Vaudreuil va envoyer une vigie à Gaspé à ce moment-là, en novembre, après que les premières exactions des Anglais se sont faites à Gaspé. Après ça, Revol va encore repousser une autre attaque, mais par la suite encore là, parce qu'il n'y a encore aucun bateau de France qui est venu ravitailler la baie des Chaleurs. C'est encore la disette, comme il s'est passé auparavant. Les miliciens qui étaient avec Pierre Revol vont partir durant une partie d'hiver. Ça va beaucoup les affecter, toute la baie des Chaleurs à ce moment-là. Là, on s'en arrive au printemps 1755. mais heureux, 1757, pardon. Mais cette année-là, heureusement, il n'y a pas vraiment d'attaque anglaise durant cette année-là, mais c'est peut-être le calme avant la tempête, parce qu'en 1758, ça va vraiment faire boum.
Très bien. Très intéressant. Pouvez-vous, vous avez déjà parlé un peu de déportation, mais pouvez-vous nous parler un peu plus de l'impact de la conquête sur les Acadiens?
Oui, on a vu première déportation au mois de juillet 1758 à Grand-Pré. Ça va se poursuivre dans d'autres villages, même modus operandi que les Britanniques vont utiliser pour saisir les hommes et les familles ensemble et les déporter. Ça va se poursuivre jusqu'en 1762. La dernière déportation a effectivement lieu en 1762. Donc, jusque-là, après la prise du fort Beauséjour et la déportation des Acadiens, bon, il dit ça s'en vient, plusieurs vont décider de quitter, de brûler leur maison même avant de partir et s'enfuir vers le nord. C'est la seule direction vers laquelle où ils ne trouveront pas de Britanniques sur leur passage, sur leur voyage. Donc là, petit à petit, ils vont trouver des endroits comme Cocagne, le camp de l'Espérance à Miramichi. Puis petit à petit, à mesure que l'étau se resserre sur eux, ils vont remonter vers le nord. À ce moment-là, l'île Saint-Jean n'était pas encore prise en 1755, donc il y en a plusieurs qui se sont rendus là, à l'île Royale. Mais après 1758, que l'île Royale est prise, qui est l'île du Cap-Breton, et que l'île Saint-Jean, qui est l'île du Prince-Édouard, sont prises, ces Acadiens-là vont migrer vers l'Acadie française, qui est le nouveau Grand-Duc actuel, et puis ils vont ultimement se diriger à l'intérieur de la baie des Chaleurs pour y trouver refuge. Donc, c'est là que les Acadiens ont commencé à rencontrer la population locale, les Franco-Métis, qui sont établis là depuis plusieurs décennies.
Oui, donc en Gaspésie, les habitants voient arriver ces réfugiés canadiens et à l'automne 1758, l'Acadie du Nord, qui inclut la baie des Chaleurs, est la nouvelle cible des Anglais. Pouvez-vous nous parler un peu de l'expédition qui est menée par Charles Hardy et un certain James Wolfe?
Oui. Donc, c'est après la prise de Louisbourg en 1758. C'est quand même au mois de... On est au mois d'août. Et là, il faut prendre une décision. On a des milliers de soldats et d'hommes d'équipage. Est-ce qu'on s'en va pour Québec d'ores et déjà? Est-ce qu'on a les moyens? Jeffrey Hammers, qui était en charge des armées en Amérique du Nord, prend l'avis de ses généraux et de tout ça. Non, ça ne sera pas possible. On n'a pas vraiment tout ce que ça prend pour s'attaquer à Québec d'ores et déjà. Il est tard dans l'année. On est à la mi-août. On ne pourra pas vraiment. On n'a pas ce qu'il faut pour. Si on doit y passer l'hiver, toutes les vives, et ainsi de suite, on n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour s'attaquer à Québec présentement. OK, mais là, il décide un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ces troupes-là pour pas qu'ils s'ennuient trop. Puis il dit, bien, peut-être, c'est un peu dans la politique de la terre brûlée, on devrait peut-être envoyer nos effectifs dans le nord du Golfe Saint-Laurent pour y détruire tous les postes de pêche de façon à ce que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus difficile pour Québec et autres villes dans toute la vallée du Saint-Laurent, d'avoir des ressources et ainsi de suite. Ils n'auront pas, s'ils veulent envoyer des efforts pour ce qui est des Français, on va avoir tout détruit, les ressources sur leur passage, on va avoir de la difficulté à se reprendre. C'est la politique de la terre brûlée, en fait. Fait qu'ils décident d'envoyer une assez grosse expédition, vraiment démesurée, pour la quantité de personnes qui s'y trouvent à ce moment-là. On parle peut-être de 600 pêcheurs, hommes, femmes, enfants, à la baie des Chaleurs. On parle peut-être quelques centaines de réfugiés acadiens démunis à Miramichi. Mais tout compte fait, l'expédition s'en va. On parle ici de 6 vaisseaux de ligne, jusqu'à même le vaisseau amiral, qui est le Royal Williams, qui va être ultimement le vaisseau du vice-amiral Charles Hardy, qui en passant a la langue française comme langue première. Il vient des îles anglo-normandes, c'est Charles Le Hardy, il parle très bien français. Et il y a le James Wolfe, qui lui va diriger les soldats, tandis que Hardy va diriger la flotte. On parle ici de 6 gros vaisseaux de guerre, on parle de jusqu'à 60 à 84 canons par bateau, on parle de près de 2000 soldats, de 3600 hommes d'équipage, 3500, 3600, donc en tout et partout, c'est à peu près un soldat ou homme d'équipage par pêcheur ou enfant ou femme qui se trouve actuellement en Acadie, à la baie des Chaleurs. Donc, c'est vraiment démesuré. C'est que tout simplement, les Anglais ne savent pas, ne sont pas vraiment bien informés de ce qui se passe dans la baie des Chaleurs. Pour eux, c'est quand même un gros trou noir. Donc, ils se partent pour l'imprévisible. Donc, il y a toute cette immense expédition-là. En comparaison, on parle de 2000 soldats, donc 5800 quelques hommes qui s'en vont là. Puis, donc, tout va être détruit à partir de Mont-Louis jusqu'à Pabot, qui est la ville de Chandler actuelle. Donc, on parle des Mont-Louis, Grand Étang, Grande Vallée. On parle de tous ces petits villages dans la baie de Gaspé. On parle de Grande Rivière. On parle de Pabot, Miramichi aussi. Donc, en tout et partout, on parle... En fait, destruction, si on est pour la quantifier, là, on parle de 200 personnes qui ont été faites prisonniers. Il y a plus de 165 bâtiments qui ont été détruits, pas seulement des maisons, des églises, des scieries, toutes sortes de choses. Il y a plus de 200 chaloupes qui vont être défoncées, saisies. 36 000 à 40 000 quintaux de morues détruits. Ça, on parle de juste les morues, c'est une valeur de 1,2 à 1,3 millions de livres, ce qui est une véritable fortune qui passe au feu. Donc, c'est vraiment... l'impact est grand. Mais au-delà de ça, ils vont aussi réussir à capturer des pilotes. Les pilotes sont extrêmement importants parce qu'on sait que c'est grâce aux pilotes français qui ont capturé que les navires britanniques qui vont aller l'année suivante, en 1759, pour assiéger Québec, ce sont des pilotes français qui vont les assister parce que jusque-là, les Britanniques avaient peur d'entrer dans la vallée du Saint-Laurent. Ils ne savaient pas du tout comment naviguer ce fleuve-là. Et c'est grâce malheureusement à des pilotes français capturés qui vont réussir à contourner les écueils de la rivière du fleuve pour se rendre à Québec. Donc, ça va non seulement isoler la Nouvelle-France, le but du raid, c'est aussi de capturer ces fameux pilotes-là aussi.
Les réfugiés acadiens et les habitants de la baie des Chaleurs contribuent de plusieurs façons à la défense de Québec pendant la guerre. Quelle forme prend cet effort de guerre?
C'est ça. Donc là, à ce moment-là, on est en 1759, puis on sait que Québec devrait être attaqué sous peu. Il y a Deschamps de Boishébert, le capitaine Deschamps de Boishébert, qui était vraiment un peu le chef armé, le chef de l'armée française, si on veut, des troupes françaises en Acadie, on lui demande, Vaudreuil, d'aller chercher des miliciens pour aider Québec à combattre les Anglais. Donc, au printemps, il s'en va à la baie des Chaleurs et avec son lieutenant, Niverville de Grandpré, il va mettre sur pied une milice. Voilà, tout ça. Donc, c'est non seulement il va voir les gens dans la rivière Saint-Jean ou les réfugiés acadiens, il va aussi aller au camp de l'Espérance à Miramichi, il va aussi aller à Restigouche. Au total, on compte près de 300 miliciens, donc formés d'Acadiens, Micmac, Malécites probablement, et Franco-Métis. Et finalement, ils vont se rendre à Québec en empruntant les sentiers à travers la péninsule gaspésienne, à travers... probablement le Témiscouata et autres sentiers qui existaient par la voie de terre, ils vont se rendre à Québec. La milice, on peut dire acadienne ou franco-métis et micmac, on va dire la milice de la baie des Chaleurs, réussit quand même à aider à un endroit stratégique, même juste après les plaines d'Abraham, qui s'étaient avérées désastreuses pour l'armée française, comme on a commencé. Les miliciens ont permis à une grosse partie de l'armée française de se retirer sans trop de dégâts vers Montréal et pouvoir vivre pour combattre un autre jour, comme on pourrait dire. Et pour célébrer cette victoire-là, de cette milice-là, le rapport, il y a même une plaque qui a été dévoilée il y a quelques années à Québec, sur la rue de Saint-Vallier-Est, entre autres, où en l'honneur de cette milice acadienne-là qui a apporté... qui les a aidés dans cette bataille-là importante, comme on sait.
Les réfugiés rassemblés à Restigouche vivent dans des conditions difficiles. Vous en avez déjà parlé un peu, mais l'hiver de 1759 et 1760 est particulièrement pénible. Comment survivent les réfugiés?
Bon, ça va être difficile. Initialement, ils vont pouvoir... les premiers mois d'hiver se passent bien. J'ai mentionné les miliciens acadiens qui ont... contribuer à l'effort de guerre pour la défense de Québec. J'ai oublié de mentionner aussi qu'il y avait aussi des propriétaires de bateaux acadiens et franco-métis, des gens qui avaient conservé leurs embarcations à travers tout ce qui s'était passé auparavant. Et ils ont réussi avec du piratage, a capturé de 15 à 16 navires marchands britanniques qui allaient renflouer ou ravitailler les vaisseaux de guerre qui assiègent Québec à ce moment-là. Donc ça, ça va les aider au début à passer au travers du début de l'hiver, mais les vies vont manquer assez rapidement. Il y a les Franco-Métis de la baie des Chaleurs qui, eux, sont habitués aux hivers du coin, sont, parce qu'il faut dire que l'expédition de Wolfe n'a pas été plus à l'est que Pabot. Donc, ceux qui étaient à Passepébiac, Port-Daniel, leurs maisons n'ont pas été détruites. Ils avaient encore leurs agrès de pêche, leurs chaloupes, et ainsi de suite. Ils ont pêché. Donc, ils ont pu offrir quelques quintaux de morue aux réfugiés de Restigouche. Mais vers la fin de février, tout ça va s'épuiser. Donc là, on va être résous à faire bouillir des pots de bœuf qu'on avait dans au magasin, même à prendre nos mocassins de qui étaient faits de pots de bœuf, de les faire bouillir, afin de mastiquer et manger les pots de bœuf. Vers la fin de mars, plus de pots de bœuf. On prend des pots de castor qui étaient des pots qui avaient une valeur marchande, dont l'utilisation n'était pas du tout pour la consommation humaine. On va gratter le poil, on va encore les faire bouillir et pour les manger. Donc, à la fin d'avril, ce sont vraiment des Acadiens à Restigouche et même les Franco-Métis qui sont épuisés, affamés, puis jusqu'à ce que finalement, on peut voir dans le magasin, là, certains, à l'automne, lorsque les côtes se sont débarrassées de leur carcan de glace et de neige, ils ont pu aller repêcher à nouveau, ça a pu redonner de la nourriture. Mais il y a une source de archivistique sur laquelle je me suis fié aussi pour cette partie-là de l'histoire de la baie des Chaleurs. C'est la série V7, c'est des certificats lorsque des gens fournissaient des services ou de la nourriture au magasin, comme le magasin de Restigouche, par exemple. Le magasinier écrivait un certificat pour une certaine valeur, pour le service rendu ou pour les produits offerts au magasin. Et puis, dans cette série V7-là, on peut voir que pendant cette période-là, là, du 4 mars au 27 avril, on parle de, j'ai les chiffres ici en main, on parle de 29 pots de bœuf, de 179 paires de souliers de pots de bœuf qui ont été vendus au magasin, 294 livres de pots de castor. On n'utilise pas en plein hiver autant de souliers que ça pour des donc, c'était vraiment au menu des Acadiens de Restigouche que toutes ces pots-là, ces souliers de peau de bœuf-là se trouvaient. Donc, ça a été vraiment ardu. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées à ce moment-là.
Une situation de survie très pénible. C'est aussi à Restigouche que se déroule la dernière bataille navale du régime français auquel Jean Mallet, maintenant âgé de 18 ans, aurait peut-être participé. Comment se déroule cette bataille?
Donc, c'est une bataille qui va durer du 23 juin au 8 juillet 1758, avec le gros de la bataille le 8 juillet 1760, pardon. Parce que qu'est-ce qui arrive au printemps de 1760, juste avant, on va reculer un peu à la bataille des plaines d'Abraham. Avant que la capitulation de Québec soit faite, le gouverneur Vaudreuil avait réussi, sous le couvert de la nuit, pourrait-on dire, à envoyer des messagers en France pour demander de l'aide. Et ils vont arriver plus tard, mais l'aide va arriver pas en 1759, trop tard. Et va seulement, la France va envoyer une flotte de 3 malheureux petits bateaux. Ils demandaient 400, 2000 ou 4000 soldats. C'est à peu près 200 soldats qui vont être envoyés au total. Sur trois petits navires dans le bienfaisant le marquis de Malraux et j'oublie le troisième, mais c'est trois navires qui vont être envoyés. Lorsqu'ils arrivent dans dans le golfe du Saint-Laurent, on est justement au mois de juin, mai-juin, et ils vont trouver refuge, ces bateaux-là, lorsqu'ils s'aperçoivent que tout est terminé pour Québec. Ils ne vont pas rentrer dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a pas une discussion à l'interne. Dire, bon, on va se diriger vers la baie des Chaleurs. Que Giraudet, qui était qui dirigeait la flotte, connaissait bien. Sa femme était une Acadienne de la baie des Chaleurs. Entre autres, c'était une des lefèvres de Bellefeuille, qui était le seigneur de Pabot à ce moment-là. Donc, ils connaissaient bien la région. Ils vont aller trouver refuge là-bas. Et puis, mais les Anglais et les Britanniques sont bien au courant que la France a envoyé des hommes. Ils ne savent pas combien. Donc, ils envoient deux flottes, une de Québec et une de Louisbourg, pour essayer de trouver où se trouve cette flotte-là. Et avec des indices, des gens, certains ils entendent parler que finalement, ils ont trouvé refuge au fond de la baie. C'est la flotte de Byron, partie de Québec, qui va les trouver en premier. C'est à la fin de juin. Et là, Giraudet va mettre en... c'est le branle-bas de combat. Donc là, il va enlever des canons qui se trouvent sur les navires pour faire des postes, des batteries de canons sur différentes pointes. Lorsque la flotte arrive vraiment au fond de la baie des Chaleurs, ils vont faire sauter une des batteries. À mesure, il y a un retrait vers l'intérieur même de la baie. Petit à petit, étant donné que la baie rapetisse, les fonds remontent, les deux plus gros navires de Byron, de la Royal Navy, vont rester en amont, juste près de la pointe Miguasha, en Gaspésie. Il y a seulement trois navires qui vont aller un peu plus loin. Puis c'est là qu'ils vont s'embourber dans les fonds hauts. Ils vont devoir faire du mesurage, du sondage de la baie pour savoir où se trouve le fameux canal, le chenal, qui mène vers le village de Restigouche. Mais les Français qui sont là ne vont pas tirer profit du fait que ces navires britanniques-là s'enlisent dans la base et qu'ils sont figés là. Ils réussissent à s'en tirer, à finalement trouver le chenal qui mène vers le fond de la baie. Et c'est là que la bataille va vraiment commencer. De son côté, Giraudet va faire même couler des navires, des chaloupes acadiennes, pour essayer d'empêcher que les navires britanniques passent. Il va mettre des batteries, un dernier point entre Pointe-à-la-Croix et maintenant ce qui est Hamilton de Nouveau-Brunswick, pour faire un genre de tir croisé vers ces navires-là, qui doit emprunter ce passage-là. Finalement, il se rend de tout près, il débarque des hommes en chaloupe pour essayer de débarquer, aller sur les côtes. La milice des Acadiens, des Micmac, la milice des Franco-Métis, vont les empêcher de descendre. Ils vont réussir à détruire le campement militaire que la flotte de Giraudet et ses hommes avaient fait juste un peu plus en aval du village acadien. Mais les documents d'époque montrent en fait que ce qu'ils ont détruit, c'est vraiment le camp militaire et non pas le village des Acadiens à proprement parler, le village des réfugiés. Donc, tout ça va culminer au 8 juillet, durant cette bataille-là, où le marquis de Malos va être brûlé, coulé, le bienfaisant aussi. Il y aura quelques morts et de blessés du côté des Britanniques qui, après avoir vu qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, vont simplement quitter l'endroit sans capturer, ne sans rien, sans vraiment débarquer au village. Donc, la flotte part, laissant ce qui restait des forces françaises et des Acadiens là. Et puis, sur leur passage au retour, ils rencontrent la flotte de Wallace, qui était partie de Louisbourg. Et là, ils vont détruire Passepébiac à ce moment-là. Ce que j'ai pu trouver à travers des journaux de bord des bateaux, ce que j'avais jamais... On n'avait vraiment jamais mentionné avant, mais Passepébiac a vraiment été détruit aussi en 1760.
Donc, à part la destruction de Passepébiac, quelles conséquences a la victoire anglaise sur la population de la baie des Chaleurs?
Ça va vraiment... la flotte de Giraudet avait quand même apporté plusieurs marchandises, cargaisons, ravitaillement avec eux, qui vont aider les Acadiens. Ils vont poursuivre pour le reste de l'été, ils vont faire du piratage, ils vont réussir aussi à enrichir leur magasin de d'autres cargaisons de navires marchands qui se dirigeaient vers Québec. Puis là, qu'est-ce que ça va produire? C'est que là, ça va venir aux oreilles du gouverneur de Nouvelle-Écosse et aussi de Murray, qui était nouvellement mis en place à Québec, qu'il y avait du piratage qui se passait à la baie des Chaleurs qui rendait difficile le commerce entre Louisbourg et Québec. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'été va se terminer, l'hiver va approcher. Ils passent quand même un hiver de 1761 qui n'est pas si pire pour eux. Mais entre-temps, il va y avoir de la bisbille entre les Acadiens et les Micmac. Le chef Micmac, Jean-Claude, va envoyer une petite délégation au Fort Cumberland, qui est le Fort Beau Séjour qui a été renommé, pour demander de l'aide des Britanniques parce que il est maltraité par les Acadiens et ainsi de suite. Donc ça va causer un autre drame qui va suivre à l'automne de 1761. C'est Belcher finalement parce que ça va causer une incertitude de savoir qui a autorité sur la baie des Chaleurs dans cette période de guerre-là. Est-ce que c'est le gouverneur Murray de Québec? Est-ce que c'est le gouverneur Belcher de Nouvelle-Écosse? Belcher pense que c'est lui, Murray pense que c'est lui, mais dans les faits, on est sur un territoire de guerre et lorsque ça arrive que le territoire a été conquis à ce moment-là, mais on n'a pas encore fait les traités de paix et on n'a pas encore officiellement transféré le pays ou les possessions ou les territoires conquis aux Britanniques. Donc, ce territoire-là demeure sous la gouvernance de Murray. Belcher, lui, pense que c'est maintenant sous sa gouvernance, le gouverneur de Nouvelle-Écosse. Il pense que finalement, qu'il considérait volé aux Britanniques en 1713, c'est-à-dire toute l'Acadie jusqu'à la côte nord de Gaspésie, lui appartient et il peut maintenant l'utiliser comme bon lui semble. Il va envoyer Roderick Mackenzie s'emparer des derniers Acadiens qui restent aux alentours, dans la région de Caraquet-Battery, qui s'appelle à ce moment-là Nipisiguit, et dans la région de Chipagan. Il va rafler plusieurs centaines d'Acadiens. C'est une des dernières déportations qu'il va se faire. Et pour ce qui est de la famille franco-métisse, Mackenzie mentionne lui-même dans son rapport qu'ils avaient effectivement, ils appelaient ça des « half-breeds » en anglais, des « sans-mêlés », si on veut. Il ne savait pas trop comment les classer, c'est ces mots. Il a donc décidé de les rester là. Donc, on peut voir d'ores et déjà que les deux communautés, les Acadiens et les Franco-Métis, formaient vraiment deux communautés distinctes. Et on peut voir que l'identité, la question identitaire à travers cette guerre-là a vraiment mis en relief les deux communautés acadiennes et les Franco-Métis entre eux.
Très intéressant. Merci beaucoup, Marc-André. C'est ce qui met fin à notre émission de ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Un grand merci également à notre invité Marc-André Comeau pour nous avoir fait découvrir et permis de mieux comprendre l'histoire des pêcheurs normands de la baie des Chaleurs. Pour les plus curieux, vous pouvez évidemment vous procurer son ouvrage intitulé « Pêcheurs normands, famille métisse » publié aux éditions Septentrion. De plus, si vous souhaitez partager ou réécouter notre émission, vous pouvez le faire désormais sur des plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts ou encore Spotify. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page Facebook pour commenter, réagir et suivre nos toutes dernières émissions. Sur ce, c'était Lucie Arbour à l'animation et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Avant de nous quitter, nous allons nous laisser sur une dernière pièce musicale. Il s'agit de la chanson « La Gaspésie » de Félix Leclerc. Merci encore de votre écoute et à la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
Il y a au fond de la mer des montagnes, des ravins, des villes, des cimetières. Il y a des épaves dans la mer, dans le creux, parmi les joncs aux grands doigts. Il y a des hommes dans la mer, des femmes qui dorment. Il y a des enfants dans la mer pour couvrir tout cela. Il y a des vagues sur la mer, buveuses. Il y a des écumes aussi, des écorces, des lettres déchirées, des fleurs à la dérive. Il y a des oiseaux au-dessus de la mer, de grands oiseaux blancs, avec des yeux comme des gouttes d'eau. Des oiseaux sans voix qui tournent en rond le bec ouvert, qui piquent soudain dans les flots immenses, les ailes collées le long du corps comme deux bras qui bruissent en s'égouttant. Il y a des grèves autour de la mer, des coquillages et du sel, et de vieux marins qui ne voguent plus, qu'on a débarqués, mais qui sont repartis dans des voyages sans escale. Il y a le soleil sur la mer, et toi au bord, qui le regarde descendre.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le moment de s'inscrire à la 11e édition du Cabaret Festif. Prestations rémunérées, plus de 35 000 $ en prix et en bourse, des shows partout au Québec et plus encore. Inscription ouverte jusqu'au 12 décembre via le www.lefestif.ca/cabaret.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi, nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute CHIZ 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chis.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarquer ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!